France Inter, le 6-9 du week-end.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alain Baraton et sa main verte, on va évoquer avec vous un arbre et ça passe par une belle légende qui a pour décor la forêt de Brocéliande.
Une forêt bretonne dans laquelle il est parfois possible de rencontrer des fées, des héros comme Lancelot du Lac ou le roi Arthur, ou un célèbre magicien qui aime s'annoncer ainsi « Je m'appelle Merlin » et vous de lui répondre « Enchanté ». Il existe aussi en ce lieu la fontaine de Barenton, ça ne s'invente pas, et un arbre magnifique, objet de nombreuses légendes et de cette présente chronique.
Et vous parlez donc du hêtre de Pontus.
Un arbre à l'origine d'histoires tristes, cruelles, sordides, glauques, mais il en existe une qui est belle et qui convient parfaitement en cette période de fête.
Il s'agit certainement d'une histoire d'amour.
Vous avez raison. Le hêtre de Pontus porte le nom d'un prince qui doit fuir son pays. Pontus est le fils du roi de Galice et des Sarrasins malveillants l'obligent à quitter précipitamment la terre où il est né. Par une nuit sans lune, il embarque à bord d'un navire misérable et part à la dérive sur les océans. Par le plus grand des miracles, son bateau échoue sur une plage non loin de Vannes et, apprenant son identité, le roi de Bretagne lui offre l'hospitalité et donne une soirée donnée en son honneur.
Et c'est justement à cette soirée qu'il rencontre Sidoine.
Elle est jeune, elle est belle, elle est terriblement intelligente et le coup de foudre, bien sûr, est immédiat. Pontus et Sidoine tombent follement amoureux. Quand le roi de Bretagne est à son tour attaqué par les Sarrasins, Pontus combat à ses côtés et grâce à lui, la victoire est éclatante. Pour le remercier, le roi lui offre la main de sa fille.
Et comme pour beaucoup de contes de Noël, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Oui, mais pas tout de suite dans cette légende, car il n'a pas eu le temps de l'épouser à cause du sinistre Guénelet qui a comploté dans son dos. Ce dernier accuse son ami, ils étaient amis, d'avoir trahi le royaume en complotant. Et le roi tombe dans le piège. Pontus doit partir. Celui-ci, désespéré, se réfugie dans la forêt de Brocéliande, on y retourne, et il y passe sept longues années dans le dénuement le plus complet. Il attend désespérément le jour où il pourra enfin revoir celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer.
Oui, sauf que pendant ce temps, à la cour, Guénelet tente à son tour de séduire Sidoine.
Ah oui, je vous l'ai dit, elle est belle, elle est jeune, elle est terriblement intelligente, mais elle est aussi fidèle. Et tant que son aimé est vivant, elle restera au moins en pensée à ses côtés. Guénelet, on s'en doute, est fou furieux, et il décide de mettre un terme à leur relation et il part dans la forêt pour tuer son rival. Les deux hommes vont se battre pendant 12 jours. Le 13e jour, Pontus, d'un coup de glaive, décapite enfin son ennemi. C'est la victoire et le retour triomphal dans le château où il peut enfin prouver à la cour son innocence. Le roi, pour se faire pardonner, lui donne alors et vraiment la main de sa fille. Pontus, heureux, décide alors de planter là où il a combattu un être magnifique qui vit toujours et qui, lui, existe vraiment.
Voilà, cet être de Pontus.
Et qui vit véritablement dans la forêt de Brocéliande. C'est un
Bretagne.
Être qui serait âgé de 300 à 400 ans, qui vit sur une propriété. Je crois qu'il n'est indiqué nulle part.
On le protège.
Il faut surtout mériter de le rencontrer.
Vos réponses et vos conseils aux questions des auditeurs de France Inter. On commence par Gérard qui vous demande est-ce qu'il peut rabattre sans risque une haie de laurier du Caucase ?
Le laurier du Caucase est certainement, d'après moi, l'un des arbustes les plus résistants. J'ai connu des haies du Caucase qui n'avaient pas vu un sécateur ou un jardinier depuis 20, 30, voire 40 ans. Et il a suffi qu'il soit rabattu à 1 mètre de la souche pour qu'il redémarre de manière incroyable. À propos du hêtre de Caucase, il y en a un qui vit dans le parc de Trianon, dans les Pépinières. On ne le voit pas. Je n'ai jamais vu un hêtre du Caucase aussi gros. Je pense que nous détenons à Versailles l'un des plus vieux arbres, tellement il est incroyablement gros. Donc ce laurier du Caucase peut atteindre des grosseurs inouïes. Mais pour répondre à la question, oui, il peut être rabattu. Mais attention, rabattu, cela veut dire à 1 mètre de la souche. Si on le coupe au niveau du sol, il risque fort malheureusement de mourir.
Daniela possède un oranger en caisse. L'arbre est abrité en véranda et elle vous demande, Alain, quelle est la fréquence des arrosages pour cet oranger en caisse.
Il faut y aller doucement. Alors déjà, un petit truc tout simple. Quand les orangers en caisse qui vivent protégés du froid manquent d'eau, les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes, sèchent et tombent. C'est le signe dans lequel cas on ne tarde pas, on met de l'eau. Mais en règle générale, vous surfacez simplement la couche superficielle de la du sol, vous mettez un petit peu d'eau, 1 ou 2 litres, pas plus, toutes les 3 semaines, et logiquement, l'oranger attendra le printemps pour reboire de manière plus importante. Donc, en moyenne, vous arrosez la surface de la terre, qu'elle soit bien humidifiée, et vous attendez qu'elle soit redevenue sèche avant de remettre un petit peu d'eau 2 à 3 semaines plus tard.
Et un peu de paillasse pour garder l'humidité. d'humidité sur la terre,
c'est paillage.
De paillage, bien sûr. Oui.
Parce que dans le domaine du journal, la paillasse,
c'est encore autre chose.
C'est ce que l'on va mettre, par exemple, pour protéger les châssis du froid et du gel.
Donc, et chez moi, c'est mon lit.
Oui, mais tout à fait. Je n'aurais pas osé vous le dire, effectivement.
Ah bah, comment ça, vous connaissez mon lit ?
Non, je ne connais pas votre lit. Mais dites donc.
Donc du paillage et non pas de la paillasse. Robert vous demande, et c'est un conseil de droit, est-ce qu'il est autorisé, Robert, à aller cueillir du lierre dans les bois ?
Les textes forestiers sont relativement clairs. En toute logique, vous n'avez le droit de ne prélever aucun élément végétal dans les bois. Mais il y a une tolérance. Et la tolérance, c'est celle du cœur, c'est celle de l'offrande. À savoir que si vous partez, de quoi faire une petite décoration de Noël, si vous partez avec un petit bouquet de houx dans la main et pas au-delà, il n'y aura aucun problème, aucune fuite. Si effectivement vous faites commerce, là vous risquez de le redouter, de le craindre et de payer cher. Mais si c'est pour un usage raisonnable, limité et vraiment pour les fêtes, il n'y aura pas de problème.
Cyril vous demande s'il est possible de cultiver 2 années de suite des tomates au même endroit, dans le même potager. Donc.
Sans aucun problème. Ouais. Beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir un grand potager et doivent se contenter malheureusement du même emplacement. Non, je dis souvent que la rotation des cultures évite le stationnement permanent de quelques bestioles, virus ou bactéries au même emplacement. Mais effectivement, il n'y a pas de souci. Mais pour éviter les problèmes, ce que je recommande, c'est que lorsque les tomates ont cessé de fructifier, c'est le cas depuis quand même pas mal de temps, on arrache en totalité le pied, on bêche l'ensemble de la parcelle qui reçoit les tomates pour que le gel, si gel il y a, fasse quelques dégâts parmi les petites bactéries qui pourraient survenir. Et on n'hésitera pas, quand on replante, à retourner à nouveau la terre, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas de traces des champignons que les tomates ont forcément, j'allais dire, attrapés en fin d'année.
Julien vient de retrouver dans le sol de son potager des pommes de terre. Il les avait oubliées cet été, ces pommes de terre. Est-ce qu'elles sont encore bonnes ?
Elles le sont. Mais attention, c'est même miraculeux qu'elles y soient encore. Quand vous oubliez les pommes de terre, elles sont tranquilles, protégées de la lumière. Ce qui est dangereux, par contre, c'est attention, c'est si elles ont été en contact avec la lumière, si elles sont vertes. Les pommes de terre vertes sont toxiques, sont dangereuses. Tout comme également, on me demande de temps en temps, est-ce que je peux donner des pommes de terre à manger à mes lapins ? Pour ceux qui ont des lapins d'appartement, non, le lapin, c'est toxique pour les lapins, la pomme de terre. Même vous d'ailleurs, quand vous mangez une pomme de terre, elle est cuite en général. Ou alors vraiment, vous m'étonnerez de vraiment.
Là, vous pouvez l'utiliser crue, c'est en la râpant si jamais vous vous brûlez. Je vous assure, c'est formidable. Oh, ça apaise terriblement.
Certainement, mais vous ne la consommez pas. Donc la pomme de terre, effectivement.
Non, évidemment.
Donc on ne laisse pas les pommes. Non, on ne sait jamais. Vous savez, les pommes de terre, donc on les retire du jardin pour éviter que les mulots et toutes ces petites bestioles ne soient tentées de venir séjourner là encore et passer les fêtes dans votre jardin, parce qu'elles ont le gîte et la table. Elles auraient de quoi ça. Elles auraient tort de s'en priver.
Bien sûr.
On termine avec ce conseil lecture pour le week-end du Nouvel An qui arrive.
Et oui, pour ceux qui ont raté Noël, parce qu'on fait aussi des cadeaux Nouvel An, le livre s'appelle Arbre, un botaniste au musée. Il est signé de Christophe Donneau et c'est un ouvrage extraordinaire où l'homme, Christophe Drenou, c'est écrit petit sur ma fiche, vous allez tout comprendre, 62 ans, pas de lunettes, je suis quand même très fier. Et donc c'est un ouvrage qui montre des photos d'arbres, des peintures d'arbres avec des textes. C'est un très bel arbre qui est publié aux éditions Phage.
Merci Alain Baraton pour tous ces bons conseils et à demain.
À demain.